Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque.
Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9 tous les quatrièmes vendredis du mois.
Et que dit-on chez nous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Nous commencerons par une séquence d'actualité.
Ensuite, Louis-Claude nous livrera sa chronique du mois.
Puis notre ami Jean-Noël Ferraille nous donnera quelques éléments pour comprendre l'Afghanistan, un pays qu'il connaît pour avoir travaillé pendant des années avec l'association Madeira et avoir effectué plusieurs séjours là-bas.
Nous dirons quelques mots du dernier livre des Pinsons Charlot, Notre vie chez les riches, et nous terminerons par l'agenda militant du mois.
Alors, André, Louis-Claude, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité de ce mois ?
Eh bien, vendredi dernier, le 17 septembre, journée contre la réintoxication du monde, nous étions une trentaine sur la rocade au rond-point de Plainpied pour dénoncer le projet d'installation de bassines sur une grosse exploitation agricole.
Bassines, c'est une drôle de façon de désigner de gros bassins de plusieurs milliers de mètres cubes.
Une dénomination anodine pour quelque chose qui ne l'est pas du tout.
Il s'agit de stocker de l'eau en hiver pour pallier aux sécheresses d'été, souvent accompagnées de restrictions d'irrigation. À première vue, c'est plutôt une idée de bon sens.
Sauf que cette eau ne vient pas du ruissellement des eaux de pluie. Elle est pompée dans la nappe phréatique. Alors que l'on pompe en hiver ou en été, ça change rien. Ça fait baisser la nappe quand même. C'est une fausse bonne idée pour lutter contre les sécheresses à venir. Il faut au contraire aider le rechargement des nappes en protégeant les zones humides et en replantant des haies qui freinent le ruissellement et favorisent l'infiltration.
Et la Commission européenne commence à s'y intéresser. Elle a déjà épinglé la France pour son non-respect des directives sur l'eau. Des députés verts l'ont alerté sur le fait que ces bassines contreviennent à 9 directives, dont la directive cadre sur l'eau. Les conclusions de la Commission vont dans leur sens. Il y a là un levier qu'il faudra actionner.
D'autre part, Attaque va entreprendre une campagne contre l'évasion et la fraude fiscale qui font perdre aux finances de l'État, c'est-à-dire à nous tous, environ 80 milliards d'euros par an, à peu près, puisqu'évidemment, la fraude, on ne sait pas exactement à combien elle se monte.
C'est comme si les évadés fiscaux et les fraudeurs nous volaient à chacun plus de 1000 euros par an.
Leur Attaque s'en préoccupe depuis longtemps et avait déjà publié un livre sur le sujet en 2012. Elle recommence cette année avec l'ouvrage intitulé « Impôts, idées fausses et vraies injustices ».
Nous en avons fait un compte-rendu dans notre dernière émission. On peut l'écouter en podcast ou pour parler français en balado-diffusion en allant sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Oui, d'autre part, Attaque France lance un observatoire de la justice fiscale visant d'une part l'explication du rôle de l'impôt et des finances publiques et d'autre part la promotion d'une véritable justice fiscale. Il publiera des articles, des interviews et fournira de la documentation sur ce sujet particulièrement sensible. Et maintenant, Jeanne-Marie Louis-Claude, à vous.
Oui, donc ce mois-ci, nous avons décidé de consacrer la rubrique à une réflexion à partir de quelques articles du numéro de septembre du Monde diplomatique. Et de quoi est-il question ? Eh bien, banalement, si l'on peut dire, d'Afghanistan, de prévention de contagion par le virus qui nous accompagne depuis maintenant pas mal de temps, et de technologie numérique.
Ou des affaires courantes, quoi. Mais pour commencer, le diplôme nous rappelle les opinions émises doctement il y a une vingtaine d'années par quelques-uns de nos grands influenceurs médiatiques, qui prêteraient à rire si elles n'étaient pas de dangereuses âneries. Commençons par l'Afghanistan.
Oui, avec l'opinion de Bernard Guetta dans l'Express, le 14 novembre 2001, je cite « Depuis le 11 septembre, on avait mille fois entendu que les États-Unis ne pourraient que s'embourber dans les montagnes afghanes et que les talibans vaincraient l'Amérique comme les Afghans avaient vaincu l'URSS. C'était là le plus aveugle des raisonnements. »
Le 25 mai 2002, une kyrielle de journalistes, politistes et historiens déclarent leur amour pour la guerre dans le Figaro.
À l'époque, un mois après le début de l'offensive américaine en Afghanistan, en Afghanistan, le doute dominait dans les médias et aussi dans l'opinion publique sur le bien fondé et sur l'efficacité des frappes. Les contempteurs de l'Occident démocratique prédisaient les pires catastrophes. Une fois de plus, les Cassandres se sont trompés.
Ah oui, la victoire américaine n'a pas été remportée contre l'islam, ni contre les pauvres, car ce sont bien évidemment des musulmans et parmi les plus miséreux qui en ont bénéficié. Elle représente un premier succès de la démocratie sur l'islamisme radical.
Voilà, fin de citation. Alors là, évidemment, nous laisserons les femmes afghanes et les journalistes afghans apprécier les conséquences de la brillante victoire américaine contre les talibans. 19 ans plus tard, on peut vérifier que la réalité est toutefois légèrement différente du pronostic. Comme déjà dit, on s'interdira d'en rire car le dramatique l'emporte nettement sur le ridicule. Et l'on pourrait penser que tous ces technico-chronico-bonimenteurs se méfient maintenant de la mémoire numérique, accessible assez aisément à tout un chacun. Ça pourrait les rendre prudents, ce serait rassurant. Mais voir à quel niveau d'erreur ces gens-là se situent, et les entendre régulièrement déverser leurs sentences définitives sur les plateaux télé, ça reste quand même très effrayant.
Ah mais oui, mais Louis-Claude, c'est adepte du raisonnement Shadok, ça. Il propose pour réussir de recommencer 100 fois ce qui a 99 chances sur 100 d'échouer. La mise en évidence de leur bourde il y a 20 ans ne semble aucunement leur servir de leçon. Ils sont et restent des va-t-en-guerre, convaincus que la contrainte militaire est le moyen le plus efficace de propagation des valeurs humanistes dont ils se parent volontiers.
Très volontiers, en effet, oui. Alors, un autre article du même numéro du Monde diplomatique commence par une question dépourvue de gentillesse au sujet d'un rapport parlementaire français. Je cite « Quel rapport officiel français mettrait l'eau à la bouche d'un éditeur nord-coréen ?» Et la réponse « Celui sur les crises sanitaires et outils numériques, déposé à la présidence du Sénat le 3 juin 2021.
Oh, non, non, non. Comment des sénateurs français oseraient-ils faire des propositions que signerait Kim Jong-un, destinées à organiser la résistance à la propagation d'un virus dans le pays des droits de l'homme? Ah non, non, non. Impossible, impossible.
Eh ben, pas si impossible que ça. Comme disait Jacques Coeur, à vaillant cœur, rien d'impossible. S'inspirant du célèbre navigateur Berruyer, trois sénateurs de droite sont partis en croisade. En principe contre le virus, en fait contre les libertés individuelles et collectives. Jugez plutôt, je cite encore, « Le présent rapport propose de recourir fortement aux outils numériques dans le cadre de la gestion des crises sanitaires ou des crises comparables. » Catastrophe naturelle, industrielle. Alors, c'est quoi une crise comparable à celle du virus? C'est une manifestation de masse? C'est les gilets jaunes? Et alors, il continue, pour faire respecter couvre-feu, confinement, passe sanitaire et quarantaine, cela, disent-ils, implique de croiser trois types de données, les données d'identification, les données médicales et les données de localisation.
Oui, alors, en d'autres termes, une base de données regrouperait votre identité, vos données médicales et vos déplacements.
Voilà.
Mais d'abord, premièrement, vos données médicales relèvent aujourd'hui du secret médical et ne sont donc pas accessibles par n'importe qui, c'est seulement par des médecins ou des personnels médicaux. En plus, la liberté de circulation des individus est en principe garantie en Europe, hein, sauf sous contrainte judiciaire éventuelle. Ben, et enfin, l'agglomération de toutes les données personnelles est généralement interdite, mais lorsqu'elle est autorisée, c'est à l'usage de la justice, non?
Oui, c'est très particulier, oui. Eh bien, toutes ces balivernes de contraintes seraient donc à mettre au panier des vieilleries droits de l'homiste. Services publics et structures privées abandonneraient la base de données et pourraient la consulter en retour. De mauvaises langues prédisent même que la gestion anticipée d'une éventuelle propagation d'un éventuel virus crée d'ores et déjà les conditions de la limitation de ces libertés et d'ailleurs prépare la mise en place de contraintes permanentes. Le projet que présente la droite sénatoriale confirme les réalités des craintes qui sont exprimées.
Bah oui, mais pour ne pas s'inquiéter, il faudrait faire l'autruche. Il faut continuer de dire je n'ai rien à cacher, je ne vole pas, je suis vacciné. Bah d'ailleurs, je regarde les émissions de télé, réalité, mais les gens qui viennent raconter tous leurs secrets les plus intimes, Bon, et ils ont l'air très heureux de se prêter à ce jeu-là et à s'exhiber.
Oui, absolument. Hein. Mais alors, si vous aimez Bolsonaro, Poutine, Trump, Orban, Al-Sisi, Netanyahu, MBS, Xi Jinping, pour ne citer que les plus grands démocrates de la planète, ne soyez pas ni inquiets ni jaloux. Leurs homologues locaux vous préparent un monde sûr, sans surprise, sans virus, plein d'écrans, de puces, de caméras, dans un environnement d'antennes et de services d'ordre.
D'ordre, avec un S à service et à ordre. Hein. Ce sont des services destinés à surveiller votre obéissance aux ordres.
Absolument. Mais peut-être partagerez-vous avec nous cette conviction que garder notre planète vivable relève indissociablement du maintien de sa température en dessous de 2 degrés centigrades et de l'extension des libertés individuelles et collectives. Alors, les deux baby boomers que nous sommes, là, conseillent à la réputée génération sacrifiée de prendre sa destinée en main si elle veut que son sacrifice ne dure vraiment pas trop longtemps.
Je vois une caméra, je me remets du mascara. Dans le métro ou dans la rue, je reste toujours bien en vue. Et même aux caméras mobiles, je donne mon meilleur profil. Big Brother, regarde-moi,
regarde-moi
comme une star de cinéma.
Jamais assez d'amis. Si tu veux me googliser, facile, tout est référencé. Ma taille, mon âge, mon poids, mon sexe.
Yeah! Et même le nom de tous mes ex. Big Brother, regarde-moi.
En un clic, c'est sûr, je n'ai rien à cacher.
Je n'ai rien à me reprocher. Big Brother, regarde-moi.
Écoutez l'émission d'Attaque 18 et c'est sur Radio Résonance, le 96.9.
Et maintenant, Jean-Noël Ferraille va nous faire partager son expérience de l'Afghanistan.
Eh bien, Jean-Noël Ferraille, tu vas nous parler de l'Afghanistan, hein, qui est d'actualité en ce moment, et tu as une certaine expérience du pays, en fait.
Oui, mais j'étais membre de l'association Madeira, mission d'appui aux économies, au développement des économies rurales en Afghanistan. C'est une association de développement qui travaillait exclusivement dans ce pays. Et j'y étais membre du conseil d'administration pendant 20 ans, ce qui m'a permis de faire des missions, une dizaine de voyages, qui m'ont fait découvrir différentes régions du pays. Un pays que j'avais déjà abordé dans les années, fin des années 60, début des années 70, où j'avais fait deux séjours assez rapides, mais qui m'avait déjà bien marqué.
Alors, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, tu avais organisé une conférence à Bourges et tu avais fait venir un Afghan. Et cet Afghan, qui n'était pas du tout pro-taliban d'ailleurs, avait dit au moment de l'invasion américaine, de l'intervention américaine, les Américains seront vaincus.
Oui. C'était mon ami Wali Nouristani avec qui j'ai plus de rapport, et qui disait très simplement que comme les Afghans n'ont jamais accepté d'occupation de qui que ce soit, les Britanniques en ont fait deux fois l'expérience malheureuse, l'Afghanistan n'a pas pu être colonisé comme le reste de l'Empire indien voisin. Et puis, par la suite, les Russes, avec tous les moyens militaires malgré tout qu'ils avaient mis en œuvre, ont eu l'échec que l'on a connu à la fin des années 80. Et donc, le deuxième argument qu'avançaient Nouristani et moi-même aussi, puisque j'avais déjà une certaine expérience, c'était le fait que l'Afghanistan est partagé entre plusieurs ethnies. L'ethnie dominante est pachtoune, et les pachtounes se répartissent à la fois au Pakistan et en Afghanistan. Et les zones que les pachtounes, dont les talibans sont originaires notamment, ces zones sont très montagneuses, avec des vallées encaissées, pratiquement impossibles d'accès pour des moyens militaires classiques. Et donc, ces zones sont des zones refuges pour tout terrorisme, terroriste convaincu. Et les Américains, on les voyait mal intervenir dans ce cadre-là.
D'autant que ces zones refuges sont peut-être en partie en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. Donc dans un état étranger, voilà, où l'armée américaine ne pouvait pas intervenir.
La ligne de frontière a été tracée par les Anglais, c'est la ligne Durand, et qui effectivement coupe en deux la zone pachtou. Et donc, les Pachtous accueilleront tous les talibans qui viendront se réfugier chez eux.
Oui, il y a peut-être autre chose, c'est que tu parles des différentes ethnies de l'Afghanistan, mais malgré ça, il y a un sentiment national assez fort.
Oui, on parle plus de cela, mais je me souviens du départ des Soviétiques. Le débat à l'époque, donc il y a 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, c'était de dire que le pays risque de s'éclater justement avec les Pachtounes qui pouvaient éventuellement créer un Pachtounistan en englobant les zones pakistanaises, et puis dans le nord, les Ouzbékistans, les Tadjikistans, rejoindre, je ne sais comment, les pays voisins du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan. Bref, ça apparaissait pour beaucoup comme un melting pot qui risquait d'éclater. Et le débat n'est plus celui-là, au contraire, il y a un sentiment national qui apparaît indestructible. Depuis quand depuis les Anglais peut-être, mais les Russes, comme on peut le penser, et le combat des Moudjahidines contre les Russes ont sans doute renforcé ce sentiment.
Donc on peut peut-être aussi parler du rôle un peu trouble du Pakistan.
Alors le Pakistan, effectivement, a toujours eu double jeu dans cette zone, et notamment vis-à-vis des Américains. Les Américains avaient sous-traité l'aide aux Moudjahidines, dirigés bien sûr contre les Soviétiques, occupant l'Afghanistan à l'époque. Et le Pakistan a toujours eu une duplicité incroyable, acceptant les subsides américains et finançant en parallèle des mouvements terroristes tels que les talibans dans les années 90.
Oui, alors ça c'est l'aspect militaire, mais parallèlement à cette intervention des États-Unis, mais aussi d'autres pays, il y a une quarantaine de pays qui sont intervenus militairement, a été menée une politique de développement, entre guillemets, du pays. Et apparemment, ça a été un échec tout à fait cuisant.
Mais il y a d'abord eu une politique militaire. L'essentiel des 1000 milliards qui ont été... qui ont contribué à l'occupation des États-Unis dans ce pays, ont été utilisés pour des besoins militaires. On dit qu'un soldat américain équipé valait 400 instituteurs. Donc le choix de l'intervention était avant tout militaire. Mais effectivement, certains avancent le chiffre de 10% de ces sommes qui auraient été consacrées à la reconstruction civile, au développement et à la reconstruction. Mais ces 10%, donc de ces 100 milliards, on estime que 50% de ces sommes revenaient aux pays donateurs. Soit par les salaires des consultants, des intervenants, soit par les entreprises expatriées qui étaient américaines. Et donc, voilà, en gros, on estime à 50% les sommes revenant dans l'État. Sur les 50% restants, il y en a 25%, un quart, qui se diluaient dans la corruption et partaient dans les trafics, et notamment la drogue, on en parlera peut-être. Il reste 25% d'utiles, 25% de 100 milliards. Alors les Américains en ont fait un peu n'importe quoi. Notamment, ils ont considéré que le développement devait suivre les opérations militaires. C'est-à-dire qu'on ratissait, on faisait un peu comme la bataille d'Alger, on intervenait dans les campagnes, dans les villes, et ensuite on faisait venir les humanitaires et les gens qui faisaient du développement pour amadouer les populations. Il est clair que ce type de politique, auquel beaucoup d'ONG, d'ailleurs françaises notamment, ont refusé de participer, eh bien, ça a été catastrophique. C'était l'OTAN qui en était le maître d'œuvre, et il faisait ça à titre d'essai. Et ça a été, pour les ONG en tout cas, catastrophique. Quand on lit les bilans de l'OTAN, ils s'en félicitent encore, alors que ça a été un développement lamentable.
D'autre part, je crois que l'ONU est intervenue aussi.
L'ONU, c'est-à-dire l'ONU, les agences internationales de la FAO, de celles qui s'occupent des réfugiés, le PNUD, enfin toutes ces agences onusiennes intervenaient déjà avant l'invasion. Mais avant l'invasion, avant l'intervention américaine, excuse-moi.
Oui, enfin bon.
C'est un lapsus peut-être significatif.
Oui, on parle d'invasion soviétique, mais d'intervention américaine.
Voilà, c'est ça. Donc ces agences onusiennes, elles interviennent dans un esprit néolibéral, il faut le dire. Elles étaient à l'image de l'intervention américaine. Et donc ça induit des comportements tout à fait absurdes. Des logiques de marché, par exemple, des associations qui connaissent, qui sont seuls dans un secteur, dans des provinces d'Afghanistan, eh bien, lorsqu'il y a un programme de santé animale, on va les mettre en concurrence avec des bureaux d'études, avec des sociétés privées qui cherchent le business. Et on a été le témoin dans une zone où l'association Madeira était la seule à avoir déjà des programmes d'ailleurs de santé animale. On a soumissionné à l'appel d'offres qui était rédigé par je ne sais pas quel expert new-yorkais de, ou de Washington, j'en sais rien. Et c'est une société américaine qui a eu le marché. Comme elle n'était pas en Afghanistan, bah, elle a sous-traité avec une société afghane, une ONG afghane, mais les ONG afghanes, ce sont ni plus ni moins que des bureaux d'études privés. Et ce bureau d'études s'est avéré pachtoun, donc il a fallu sous-traiter à nouveau à Hazara, puisqu'on était en zone centrale du pays. Et bref, les paysans n'ont jamais vu la couleur du programme qui a été payé, mais avec la dilution que l'on connaît. Et là aussi, combien d'argent est resté aux USA, puisque c'est une société américaine qui a emporté le marché. Voilà le type l'autre chose qui m'a toujours heurté, c'est la FAO qui intervient, qui dit, bon, on va faire des vergers. Alors, le verger est intéressant parce que c'est à peu près 7 fois le revenu d'un hectare de blé, quoi, un hectare de verger. Alors, on va mettre des pommes. Eh bien, la FAO a fait venir des plans entiers de Golden et de Starking, alors que les Italiens, parallèlement, ont financé un conservatoire de pommes locales. Eh bien, non, on allait importer donc de la Golden et de la Starking. Et la réponse m'a été donnée par M. Clavier, qui est arboriculteur de Saint-Martin bien connu. Il m'a dit, bah oui, mais la Golden et la Starking, c'est celle qui exige le plus de traitements, notamment phytosanitaires, pour pouvoir. Donc on amorçait une pompe là qui permettait à Bayer de s'installer. Voilà. Ouais. Voilà le type d'intervention sur lequel on s'énerve, quoi.
Puis il y a aussi autre chose. Est-ce que les Américains, je crois, ne sont pas tellement intéressés à l'État afghan ? Ils n'ont pas tellement choisi. Ils parlaient de nation building, je crois, ou je ne sais plus. Mais l'État afghan, ils l'ont un petit peu laissé
voilà,
de côté.
À un moment donné de l'histoire de ces 20 ans, il y a eu effectivement les Américains ont voulu créer ce concept de nation building qu'ils avaient déjà essayé d'ailleurs de mettre en place et avec succès dans certaines fois. Mais là, encore une fois, ils ont voulu créer ça dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas et sur lequel ils avaient des bases erronées, notamment celles qui voulaient que on était dans un esprit néolibéral aussi. L'État, c'est le problème, disaient nos amis Rumsfeld, Donald Rumsfeld de l'époque, Dick Cheney et George Bush. C'était l'État le problème. Donc, en Afghanistan, il fallait pas donner à l'État les moyens de se structurer. Et d'emblée, ils ont misé sur des petits potentats locaux, d'anciens commandants moudjahidines souvent, avec leurs milices armées, parce qu'ils ont estimé que c'est dans le local et avec ces commandants qu'ils allaient pouvoir régler le problème du terrorisme et des talibans.
Oui, enfin, milices qui s'étaient mis en place, peut-être avec l'aide des Américains d'ailleurs, pendant la période soviétique.
Voilà, parce que dans le combat contre les Soviétiques, les Américains ont financé, bien sûr, les moudjahidines. Et les moudjahidines qui ont bénéficié le plus des subsides américains, c'était les plus salafistes, les plus irréductibles, proches du terrorisme qu'on a connu après, et proches de Ben Laden.
Donc alors, tous les petits chefs de guerre locaux, bah, eux, ils ont continué. Ils avaient les armes et ils avaient le pouvoir, ils ont continué.
Voilà, certains ont continué en créant des conflits locaux, d'ailleurs, tels que les paysans, dans certaines régions, ne supportaient plus ces querelles et ont pu faire appel aux talibans, notamment pour obtenir une justice impartiale. Et ça a été un des moyens d'infiltration du mouvement taliban pendant ces 20 ans. La justice de l'État était totalement impuissante parce qu'on lui a jamais donné les moyens suffisants et les paysans locaux, les 75% de la population est paysanne hein, en Afghanistan, donc régler leurs conflits, même dans les zones encore contrôlées par l'État, ils allaient chercher des talibans pour se faire pour récupérer des droits qu'ils avaient perdus, etc. Donc ça a été un élément fondamental de la percée des talibans dans les zones rurales.
Oui, alors, et maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'il pourrait y avoir une résistance aux talibans?
La résistance aux talibans, bon, on a vu le fils de Massoud essayer de regrouper autour de lui des personnalités, et puis, mais le Panjshir n'est plus ce qu'il était. Les talibans étaient beaucoup plus malins que ce qu'ils l'ont été dans les années de Massoud, qui avait gardé ce fief. Là, ils ont réussi à contourner militairement le Panjshir pour l'isoler. Et en plus, ils ont réussi aussi à grossir dans leur rang des populations tadjiques et ouzbèques. Et donc, même à Zara, si bien que l'espoir du fils de Massoud ne pouvait pas perdurer, et il a été très rapidement mis au pas, je dirais, par les talibans. Donc derrière ça, on ne sent pas de mouvement unifié qui pourrait permettre l'expression d'une opposition armée suffisamment forte. Et il faut dire aussi que les talibans, dans les zones rurales, n'emportent pas la colère, mais plutôt l'adhésion, un peu comme en 96. Certainement avec sans doute plus d'appréhension, mais ils vont dans certains cas amener encore une fois la Pax Talibana qui certes sera mal vécue par certains, notamment les femmes, mais qui pourra permettre à nouveau de commercer et sans conflit et de vendre ses productions.
Oui, comme tu dis, 75% de la population est rurale, donc il ne faut peut-être pas voir l'Afghanistan uniquement dans les grandes villes où il y a effectivement des gens occidentalisés, entre guillemets, qui eux vont certainement beaucoup souffrir.
Voilà, il y a énormément de populations qui vont souffrir, c'est clair, l'ordre taliban n'est pas admissible. Mais encore une fois, il sera accepté par les zones rurales. Nous, on a en mémoire toutes les images de l'aéroport de Kaboul. On voyait ces populations s'agripper aux avions. C'est terrible. Et les populations des villes vont trinquer. On sait déjà que les journalistes sont pourchassés. Les femmes, alors, journalistes encore plus. Il va y avoir une répression dans les villes considérable, c'est indéniable. Mais encore une fois, Kaboul, même si sa population a été multipliée par 10 en quelques années, Kaboul n'est pas l'Afghanistan. Encore une fois, plus de 75% des gens vivent en milieu rural.
Oui, et maintenant, les femmes dans tout ça
C'est certain que parmi les futures victimes des talibans, les femmes sont en première ligne. Immédiatement, elles ont subi les premières restrictions dans leur vie quotidienne. Le vêtement, on les voit en burqa, et elles doivent en plus marcher à côté d'un mahram, c'est-à-dire un homme de la famille, pour faire leurs courses, pour faire leur quotidien. L'exercice de leur profession, bien sûr, sera limité. Par contre, il faut distinguer encore une fois ce qui se fait en ville, notamment Kaboul, Kandahar, Kunduz, les grandes villes, et ce qui se passe dans les campagnes.
Oui, ça sera peut-être un peu moins mal accepté, parce que bon, il y a une très vieille tradition d'oppression masculine.
Tout à fait.
Qui remonte à des siècles et des siècles, en fait.
Voilà, et qui est moins remise en cause par l'ensemble de la population, y compris des femmes, parfois. Et donc, dans ces zones rurales, l'enjeu va être l'éducation.
Le fait même d'apprendre à lire, écrire, compter, des choses aussi basiques que ça, c'est quand même un germe d'émancipation, finalement.
Oui, voir comment les talibans vont maintenir cet acquis, effectivement, des 20 ans, qui a libéralisé largement l'enseignement.
Et est-ce que maintenant l'enseignement primaire est vraiment répandu, même dans les villages?
Oui. Et il y a une volonté, notamment dans certaines régions du centre du pays, de promouvoir l'éducation, et y compris dans les zones les plus dures au niveau islamisme, eh bien, il y a, je crois, cette option est ancrée dans les mœurs.
C'est quand même peut-être un point d'espoir.
Voilà, au moins pour l'école primaire.
Bon, eh bien, écoute, merci Jean-Noël, et puis à une prochaine fois, j'espère.
Peut-être pour des meilleures informations.
Espérons-le.
Retour dans le Berry pour écouter l'émission mensuelle d'Attaque 18, et c'est sur Radio Résonance 96.9.
Eh bien, Jeanne-Marie André, c'est votre tour. Vous allez nous présenter le dernier livre des Pinsons Charlot, Notre vie chez les riches.
Dans ce livre, publié à la Découverte, ils racontent la bonne trentaine d'années qu'ils ont passées à étudier un milieu très fermé et qui n'avait jamais été étudié systématiquement avant eux. Il s'agit de la très haute bourgeoisie. Tout en nous décrivant leur travail, ils nous dressent un tableau de cette très petite minorité qui détient richesse et pouvoir. Plusieurs traits la caractérisent. D'abord, l'entre-soi. Ce sont des gens qui ne se mélangent pas aux autres. Ce sont des Parisiens vivant pour l'essentiel dans le 16e arrondissement et à Neuilly, et même parfois dans de vrais ghettos de riches, comme la Villa Montmorency dans le 16e, petit quartier clos et gardienné, composé d'hôtels particuliers et d'immeubles de luxe, où habitent, entre autres, Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, Xavier Niel.
Bon alors, comme ça, ils sont voisins.
Ben oui. entrent soit aussi dans des clubs très fermés, que sont le Cercle de l'Étrier ou l'Automobile Club de France, le Cercle Interallié, ou encore figurer dans le Bottin Mondain. Pour entrer dans tous ces clubs, il faut être parrainé par deux membres et être agréé par une commission qui examine votre candidature. Entre soi toujours dans une vie mondaine très active, avec dîner, cocktail, vernissage, etc.
Ah bah oui, mais comme contrainte sociale, il y a pire, non?
Oui, mais ces activités en apparence frivoles sont essentielles pour le fonctionnement de cette classe. On y noue des contacts, des informations y circulent, des réseaux s'y tissent en toute discrétion. Entre soi encore dans l'éducation des enfants, qui fréquentent des établissements privés prestigieux comme l'école alsacienne ou Saint-Louis de Gonzague.
Ah, là où Brigitte Macron enseigna aux enfants de Bernard Arnault.
Cette classe a aussi un système d'éducation ainsi particulier, les rallyes. Ils sont organisés par les parents pour les enfants à partir d'une dizaine d'années, qui sont réunis dans des groupes informels pour des loisirs où l'on fait des visites culturelles, où on apprend des jeux de société, mais attention, pas n'importe lesquels, le bridge par exemple. Où en fait on s'imprègne de la culture et des codes du milieu pour pouvoir plus tard y être à l'aise et savoir reconnaître ses semblables. Autre caractère de ce milieu, une conscience de classe affirmée et assumée. La vision de la société où ils occupent une place dominante leur paraît naturelle, aller de soi, et ils font bloc pour la défendre. Et quand chez certains, des convictions religieuses les poussent à questionner leur richesse, c'est pour les amener à des œuvres charitables, pas du tout à remettre en cause le système qui leur a fait posséder cette richesse.
Mais pourtant, leurs études, là, au Pinson Charlot, ont été bien accueillies dans le milieu qu'ils ont étudié. C'est surprenant pour des sociologues qui se réfèrent à Marx et Bourdieu.
Ben non, parce que ce milieu, ils le décrivent objectivement, sans jamais juger les personnes, avec lesquelles ils ont même pu parfois nouer des liens, bon, sinon d'amitié, du moins de sympathie. Comme leur a dit une fois un de ces bourgeois, « Nous prenions Pierre Bourdieu pour un affreux gauchiste, mais en fait, ce qu'il décrit, c'est exactement la réalité. Nous avons le sens pratique de notre classe, vous nous en avez apporté la théorie, confirmant ainsi notre bon sens pratique. » Fin de citation.
Oui, ce n'est qu'après avoir pris leur retraite du CNRS, où ils étaient devenus directeurs de recherche, que les scientifiques... les Pinson Charlot, ont pris la parole en tant que citoyens, mais en gardant la même solidité dans leur documentation et la même rigueur dans leurs démonstrations. Avec des livres comme « Le président des riches » sous Sarkozy et « La violence des riches » sous François Hollande ou encore « L'argent sans foi ni loi » en 2007.
L'argent c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, omission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Escudos, pesetas, spéculés, picaillons, des dépôts, du crédit, des plaqués, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. J'ai un avenir calamiteux, j'suis licencié de la NPE, j'ai les huissiers sur le palier. De factures à payer, j'suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer, j'ai plus de famille, j'ai que suicide, même pas au gazon la poupée. De l'oseille, des recettes, des avoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans d'épargne, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuilles, petites coupures, virements, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options, y'a que le pognon. J'ai Napoléon, bénéfices, dividendes, règlements, souscriptions, valeurs, investissements, richesses, augmentations, résultats, excédents, salaires, brut, rotation. Y'a que le pognon. C'est des pièces, des shillings, des dinars, des doublons, le magot, la tirelire, des milliards, des millions, le CAC 40, le Dow Jones, les rémunérations, des indices et des rentes et des fonds de pension. Y'a que le
Alors Louis-Claude, quelles sont les actions en cours ou qui sont prévues pour les jours et les semaines qui viennent ?
Eh bien, commençons tout de suite par le dimanche 26 septembre. C'est la fête de l'agriculture paysanne à l'écopôle de la Chaponnière. C'est un village associatif avec visite du site, débat, bien sûr, un marché de producteurs. Et on pourra s'y procurer des tas de bonnes choses. Comme chaque année, Attaque 18 tiendra un stand. C'est lancé par l'ATEAC et la Confédération paysanne, notamment.
Hein. Oui, c'est à Saint-Hilaire-de-Cours, en fait, hein, pas loin de Vierzon.
Oui. Le vendredi 1er octobre, à 20h, dans la salle de la Biocoop, au 121 boulevard de l'Avenir, le comédien Fred Dubonnet présente son nouveau spectacle « La ferme du bois fleuri » sur l'agriculture, ou plutôt sur les agricultures et les agriculteurs. C'est quelqu'un qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ensuite, il est question, avec peut-être un tout petit peu de retard pour la célébration, de la commune. Il y a deux manifestations pour ça. Le dimanche 3 octobre à 17h au Four à Pain, à plein pied. Il y a donc les Gars de Chenoux, une troupe de théâtre du coin, qui présente donc un spectacle sur la commune. Et le mardi 5 octobre à 18h à l'amphithéâtre des archives départementales, Pierre Gilbert présentera son livre « La commune et les communards du Cher ». Il y aura une causerie et puis une lecture théâtralisée d'extraits. Et puis bien sûr, on pourra intervenir si on en a envie. Le mardi 5 octobre, la fonction publique est appelée à la grève par 5 fédérations syndicales, la CGT, FO, la FSU, Sud Solidaire et la Fédération Autonome de la Fonction Publique. Les revendications sont malheureusement trop bien connues, c'est la réévaluation du point d'indice qui est bloqué depuis des années, c'est l'abandon de la loi chômage et de la réforme des retraites. Enfin, mercredi 13 octobre, au marché de la chancellerie, le collectif Uni pour le climat mènera une action de sensibilisation pour alerter sur l'urgence d'agir vigoureusement pour limiter le réchauffement climatique en vue de la COP26 qui débutera le 6 novembre.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons le vendredi 22 octobre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon-Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission Joli Môme dans Big Brother, une musique afghane et L'Argent. Par chanson plus bifluorée.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir. Au revoir.